Oui, bonjour, on va commencer. Hein, vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Hein, de toute façon, pour l'instant, en tout cas, on est en petit comité, donc il ne faudra pas hésiter à poser des questions et à interagir. Donc, voilà, là, on est donc tous les deux donc, avec Philippe Curval, donc à ma droite. Je vais dire deux mots, et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par parler de l'œuvre de Philippe au travers de ses deux derniers livres, et puis après on se laissera dériver en fait sur d'autres ouvrages qui ont été les siens et d'autres éléments de son parcours si vous souhaitez en savoir plus, bien évidemment. Donc Philippe est écrit en fait de la science-fiction, en tout cas a publié son premier livre en 1960. C'était Les Fleurs de Vénus en 1960, donc ça fait donc 54 ans maintenant. Son deuxième roman de science-fiction à avoir été publié, Le Ressac de l'espace, est un roman majeur à plusieurs titres, et pas simplement parce que c'est sans doute celui qu'il a le plus vendu à une époque où la science-fiction n'était pas ghettoisée, en fait, était très ouverte sur l'ensemble de la littérature et était prise comme quelque chose de tout à fait intéressant et passionnant par on va dire, le tout venant du monde littéraire. Et ce bouquin, donc, Le Ressac de l'espace, que vous connaissez peut-être, en fait, hein, donc on parlera peut-être, parce que c'est un drôle de roman, en fait, qui met en scène des extraterrestres qui, effectivement, créent des beautés assez hallucinantes, en même temps qu'ils nous rendent leurs esclaves, mais les esclaves seraient presque consentants vu la beauté de ce qu'ils créent. Donc Le Ressac de l'espace a vendu, je crois, entre 200 000 ou 300 000 exemplaires, hein. Je crois que c'est vraiment un grand succès. Et depuis, en fait, Philippe a écrit sur plein de territoires très, très variés, très différents, des voyages dans le temps avec L'Homme à rebours, cette fière humanité qui est sur la question de l'Europe, cette question en fait aussi du contrôle politique. Est l'un des romans qui est, je crois, les plus marquants de la science-fiction française de ces 50 dernières années. Pour la petite histoire d'ailleurs, je ne sais pas s'il le sait, mais il se trouve que parmi les bêtises que j'ai pu faire, j'ai été à Sciences Po et que dans un oral que j'ai eu à passer, on pouvait choisir un livre en toute liberté, c'était en idée politique justement, et qu'à côté de Tocqueville et d'Ivan Illich, j'ai pris Cette chère humanité de Philippe Curval, qui n'a évidemment pas été choisi, parce qu'il y avait assez peu de chances quand même que les profs le connaissent. Mais voilà, j'ai potassé et j'ai défendu Cette chère humanité lorsque j'étais étudiant. Donc voilà, donc Philippe, c'est un peu compliqué de résumer en une phrase tous les territoires qu'il a pu toucher. Et ce qu'on va faire, alors, sachant que par ailleurs, il a travaillé notamment essentiellement dans un magazine en fait qui était lié à EDF, et qu'il a depuis très longtemps aussi chroniqué essentiellement de la science-fiction, mais du polar aussi, hein, et d'autres types de livres, pour plusieurs journaux, Le Monde aujourd'hui, le magazine littéraire je crois aussi, et quelques autres supports. Donc voilà, donc on va démarrer, si vous voulez, cette présentation, donc cette discussion d'une heure, en parlant des deux derniers livres de Philippe. Alors son dernier livre s'appelle « Juste à temps ». Hein. C'est un livre assez étonnant, c'est un livre qui commence de manière très réaliste dans la baie de Somme. C'est un livre sur l'innovation, ce que met en scène ce livre, c'est des sortes de voyages dans le passé par des phénomènes assez bizarres et inattendus, comme des sortes de marées du temps. Et ce voyage dans le passé va propulser notamment le personnage central donc, du roman, à l'époque donc, des frères Caudron, à l'époque donc, dans la baie de Somme, où les frères Caudron, je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, sont en fait, il en va parler mieux que moi, des pionniers de l'aviation. Et il va se passer effectivement, le roman va évoluer, mais en gros, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il part réellement du réel pour aboutir à de l'imaginaire, en traitant des questions comme l'innovation et autres, alors que le roman, donc juste avant, juste à temps, qui est Lothar Blues, dont il a parlé hier dans une conférence sur les robots, est un roman qui lui pose un monde du futur imaginaire. C'est le quatrième livre de sa série L'Europe après la pluie, hein, qui est, je crois, inspiré d'ailleurs d'un tableau de Max Ernst. Hein, L'Europe après la pluie, c'est un tableau de Max Ernst, un magnifique tableau d'ailleurs qu'il a fait en 1943 de mémoire et qui est parmi mes tableaux préférés de Max Ernst. Bon. Et donc c'est Lothar Blues, contrairement à Juste à temps, c'est un autre volet de la science-fiction d'une certaine manière, puisqu'il définit, il construit un monde totalement, un futur imaginaire, notamment au niveau évidemment de la robotique, puisque Lothar est un robot, et à partir de là, il va toucher des notions qui évidemment nous concernent nous aujourd'hui. Hein, c'est comme si on pouvait aller en science-fiction en imaginaire du réel vers l'imaginaire, ou au contraire partir de l'imaginaire pour forcément aboutir à des questions sur notre réel. Hein. Donc voilà une présentation globale. Donc on va commencer par parler de Juste à temps. Et Philippe, donc, tu peux nous dire peut-être qu'est-ce que ce livre, pourquoi tu l'as écrit et nous raconter un peu les tenants et les aboutissants.
L'intérêt de faire un roman de science-fiction où l'expérience personnelle fait partie de la structure romanesque, c'est d'amener une véritable force psychologique, force du paysage que j'ai totalement connu puisque j'ai passé mes vacances depuis l'âge de 0 ans jusqu'à ces dernières années dans la baie de Somme et qui m'est apparu comme un paysage assez extraordinaire puisque la mer se retire à 17 km de loin et revient chaque jour, deux fois par jour. Et ça donne, quand on est enfant, une vision très particulière de la fluctuation du temps. Par ailleurs, donc, il y a aussi toutes les expériences personnelles de l'adolescence, de l'enfance et tout même des débuts de l'âge adulte qui m'ont convaincu qu'il fallait pouvoir appliquer à un roman de science-fiction ce réalisme fondamental qui donne une espèce de crédibilité qui est difficile à acquérir quand on invente tout. À partir de cette structure, ça m'a permis de pouvoir imaginer donc la deuxième fluctuation, c'est-à-dire que en dehors de ces marées, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir des marées du temps, c'est-à-dire que normalement l'idée était qu'un minuscule trou noir s'était installé juste à l'horizon de la baie de Somme et qu'à partir de là c'était produit des phénomènes tout à fait particuliers qui faisaient que le personnage lui-même allait se déplacer dans le futur au début du XXe siècle et que par ailleurs des personnages venus de l'avenir allaient aboutir dans la baie de Somme. Donc ce qui m'a intéressé c'était d'une part parce que comme je suis un auteur de science-fiction et que j'ai écrit d'autres livres d'une autre thématique, il m'est apparu important de montrer comment le début du XXe siècle était une source d'émerveillement pour le départ de la technologie. Et en particulier quelque chose qui a complètement disparu parce que plus personne, il n'existe pratiquement plus d'exemplaires des avions des frères Caudron, mais il se trouve que c'était deux paysans d'un village voisin du Trois-Toits, qui est au bord de la baie de Somme, qui étaient des fermiers, dont la mère était très libérale, et leur a permis, au moment où les frères Wright venaient juste d'inventer les premiers avions volants, de commencer à créer dans cet endroit invraisemblable, au cœur de la Picardie, un endroit vraiment perdu, qui reste toujours très très fort comme comme population, qui est vraiment une population rebelle, de créer ces avions. Alors ils ont d'abord commencé par faire des avions qui ne volaient pas, puis après, ils ont réussi à créer des avions très performants, puisqu'ils ont vendu en Chine, en Angleterre, aux États-Unis. Ça a été vraiment des grands, grands pionniers de la science-fiction et de l'aviation. Et en plus, et ce qui est très important, c'est qu'ils ont créé la plus grande école de pilotage au monde. Ils ont formé 1800 pilotes au trottoir. Et donc, quand on regarde les photos aériennes de l'époque qui existent, on se rend compte que, d'une part, vous avez le petit village du trottoir, un village de pêcheurs traditionnels, et les hangars d'aviation qui couvrent un espace absolument gigantesque de déjà. Donc je ne voulais pas monter ça, et mon personnage donc, va rencontrer, au cours de son voyage dans le passé, où il en aura plusieurs allers-retours, l'un des les deux frères Colleron l'un après l'autre, tous les deux ont une personnalité différente. En plus, à cela se mêle, parce que j'ai voulu vraiment faire un roman total, dans lequel il y a aussi bien de la science-fiction, du roman réaliste, du roman régionaliste, du roman personnel, du roman de science-fiction, et aboutir à une espèce de synthèse absolue de tous ces genres, de façon à montrer que la science-fiction n'est pas une littérature réaliste figée dans un espace indifférent, mais bien quelque chose qui nous concerne tous et qui nous concerne le plus précisément. En plus, j'ai voulu montrer que la fin du monde est pour demain et que le personnage central va connaître quelle est exactement la fin du monde. C'est à partir de là que le roman va évoluer de la réalité quotidienne jusqu'à un espace tout à fait interdimensionnel où on ne sait pas exactement ce qui va se produire à la fin. Voilà comment j'ai voulu construire ce roman, qui est très différent de ce qui est écrit d'habitude, puisqu'il passe par tous les genres et qu'il veut synthétiser, outrepasser les genres qui existent aujourd'hui.
Donc voilà, donc là on a, avec ce roman que je vous conseille bien évidemment juste à temps, on a un certain type de roman de science-fiction, comme je vous l'ai dit, qui part du réel pour nourrir notre imaginaire et en continuant à poser des questions évidemment sur notre réel. Même si effectivement cette fin des temps, par la marée du temps, est une sorte de trou noir ou d'astéroïde, je crois que c'est ça en fait, hein, il y a une sorte de... Voilà, c'est un trou noir, hein, donc, mais je l'espère, pas si probable que ça. Le roman précédent, Lothar Blues, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'on en a parlé hier, au premier regard, il ressemble plus strictement à ce qu'est un roman de science-fiction, c'est-à-dire qu'il part de l'imaginaire, d'un futur, je crois, qui est relativement proche, hein, Philippe, c'est 2060. Voilà, 2060, avec notamment donc, des robots plus ou moins aimés, plus ou moins haïs, utiles au départ, hein, pour l'éducation ou pour le travail, et qui posent effectivement des questions qui leur se posent plus que jamais avec la logique de l'automatisation aujourd'hui et ce qu'on nous prédit pour les années à venir, avec de vraies questions évidemment par rapport au travail ou au non-travail, à la civilisation des loisirs, et aussi à la conscience, voire l'inconscience des robots. Alors est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Je voulais d'abord quand même ajouter quelque chose à propos de Juste à temps, c'est qu'en plus, ce qui est très rare en science-fiction, c'est que c'est un roman sentimental, puisque le personnage va d'une part rencontrer une femme dans le passé et il va retrouver une femme du futur, donc ça va aussi permettre de voir deux faces de l'amour et de la féminité et des rapports homme-femme. Bon, alors je reviens sur la table.
Après on reviendra un peu sur Juste à temps si besoin, vos questions aussi.
Voilà, donc il est certain que comme j'avais déjà écrit une fois un recueil de nouvelles qui s'appelait « Regarde fiston s'il n'y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin », parce que je constatais que dans la science-fiction française en particulier, les extraterrestres avaient disparu. Je me suis rendu compte, il y a 4-5 ans, que les robots avaient complètement disparu de la science-fiction, que plus personne n'en parlait, comme si Asimov avait totalement résolu le problème, les multiples problèmes que pose la création des science-fiction, des robots dans l'univers futur qui nous attend. Il se trouve que pour passer au-delà des théories d'Asimov, j'ai voulu inventer les robots d'un nouveau genre. D'une part, si vous voulez, dans la continuité de mes trois romans précédents sur la création du marché commun, du Marcom et de l'Europe future, j'ai voulu aussi décrire une Europe future totalement différente, dans laquelle le Parlement et le commissariat de Bruxelles se sont fusionnés en une ville immense qui s'appelle Bruxbourg, et ce Bruxbourg dirige à peu près toute la norme, tout ce qui concerne la pollution, tout ce qui concerne les Européens, et c'est un pas extrêmement ferme et qui ne suscite absolument aucune dérogation. Donc il s'est passé avant ça un moment où l'Europe étant complètement désarticulée parce que les conflits internes étaient tellement intenses qu'il s'est produit des années de chien dans lesquelles tout s'est à peu près écroulé. Et donc, le problème principal était que les enfants étaient complètement laissés perdus dans un monde sans repères. Et quelqu'un a eu l'idée d'inventer des robots très particuliers parce qu'ils ont une intelligence tout à fait pédagogique. Ils ont été créés, programmés pour enseigner les enfants. Et donc, à partir de là, la société va peu à peu se reconstituer et devenir une société à peu près telle qu'elle était avant que les années chiens n'arrivent. Donc, dans un deuxième temps, on va créer des robots qui s'appellent des quasi, les premiers s'appellent des civili, qui, eux, vont remplacer peu à peu l'homme dans ses tâches les plus essentielles et les plus désagréables. Et donc, mais ils sont quand même soumis en principe aux lois d'Asimov et ils ont été programmés de façon à pouvoir répondre aux besoins de l'humanité. Ce qui se passe, c'est que d'une part, le principal personnage du roman va, à la suite de la mort de ses parents, hériter de son robot qui avait été le robot éducateur, Lothar. Lothar qui lui-même évoque Mandrake et sa magie, et va donc le récupérer. Et finalement, il avait complètement oublié que cet être tout à fait artificiel avait été à la source de toutes ses connaissances. Donc là, dans un premier temps, il va y avoir un rapport très intense entre ce robot qui va renaître à la vie, puisqu'il était complètement à l'abandon depuis longtemps, et les rapports qu'il va avoir avec son élève, et qui sont très intenses et en même temps très étonnants, parce que ce personnage principal a été créateur des arts virtuels. Les arts virtuels sont une espèce de simulation hyper réaliste de l'impossible. Enfin, l'image hyper réaliste de l'impossible. Par ailleurs, donc, l'Europe a été complètement unifiée et il y a partout les mêmes règlements, puisque Bruxbourg les impose. Et peu à peu, puisque les quasi remplacent systématiquement les humains dans leurs tâches, les humains vont travailler 4 heures tous les 4 jours par semaine. Donc ce qui va leur laisser énormément de loisirs. Et là, je retrouve quelque chose d'assez extraordinaire que j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, c'est que dans la pièce de théâtre de Karol Čapek, qui est à l'origine de tous les robots, la même problématique se pose, c'est que les robots remplaçant tous les humains n'ont plus rien à faire, et donc la civilisation dégénère. Or, dans mon roman, la civilisation ne dégénère pas, mais elle est consacrée aux loisirs. Donc, le football, le tennis, les bords de mer sont véritablement le principal ressort des êtres humains. Et on peut dire que la culture est un peu abandonnée, parce qu'il faut bien dire que, de mon point de vue, le football mange le livre. Et à partir de ce moment-là, donc il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se produire, c'est que ces robots sont bâtis sur quelque chose de différent par rapport à l'informatique traditionnelle. Ils sont bâtis à partir de la biotique, c'est-à-dire un mélange de bionique et de l'informatique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les processeurs qui gouvernent leur système mental, mais c'est un mélange de cellules qui sont interconnectées et qui permettent de reproduire aussi le même système que les processeurs font. Sauf qu'à partir du moment où, pour certains cas, ils développent des processus virtuels, ces processus virtuels vont revenir à l'intérieur de leur mental et créer quelque chose qui ressemble à l'inconscient. Et peu à peu, ces robots ne vont pas vouloir se libérer, mais vont vouloir obtenir un statut différent, qui est celui du fait qu'ils se rapprochent de l'être humain sans être véritablement humains. Donc, vous voyez, ces deux phénomènes concomitants m'ont permis de décrire une Europe totalement différente, à l'intérieur de laquelle deux idéologies s'opposent fondamentalement. La première étant l'espèce d'idéal projeté du Front National qui serait un Roumain extrêmement virulent qui va décider que le travail est nécessaire à l'homme et qu'il s'agit de supprimer les robots. Et par ailleurs, il y a un anarchiste extrêmement violent, extrêmement radical, qui lui, au contraire, désire que le travail soit effectivement supprimé. Donc voilà à peu près quel est le champ spéculatif du roman. À partir duquel il y a des tas d'événements extrêmement différents qui se produisent et toute une relation sentimentale entre le personnage principal et des robots très particuliers qui n'existent qu'en Roumanie, dans un théâtre perdu, qui s'appelle les Matsushita, du nom d'une société japonaise, qui a créé ces robots acteurs. Et ces robots acteurs sont extrêmement perturbateurs parce qu'ils ont la possibilité de jouer des rôles en dehors de leur, des rôles qu'on leur a tenus sur scène. Et donc le personnage principal va avoir une relation sexuelle qui est possible avec ce robot acteur, une très jolie Matsushita, avec laquelle le problème justement des relations entre robots, femmes et hommes va poser des problèmes extrêmement considérables. Donc j'ai essayé d'accumuler un nombre de problèmes et de circonstances très particulières autour de la prolifération des robots que j'imagine un jour nécessaire, en oubliant le fait que les robots ne sont pas ce qu'on voit comme les robots japonais, des boîtes en ferraille, qui ne ressemblent pas à ce que j'imagine que seraient les robots, puisque les vrais robots, ce sont ceux qui servent dans les usines à construire des voitures et ils n'ont pas besoin d'avoir de forme humaine puisqu'ils remplissent des tâches très particulières. Ils n'ont pas besoin, tandis que les robots, les miens, sont nécessaires pour avoir une forme humaine et ils se rapprochent un peu de ce qui a été autrefois l'android, le cyborg, tout ça aussi en rapport avec Frankenstein, avec le golem, avec tout ce que l'être humain a pu créer comme être artificiel qui pose toujours des problèmes incessants par rapport à l'humanité.
Est-ce que vous voulez déjà poser deux, trois questions avant que je rebondisse ou pas déjà sur ces deux romans juste à temps et puis Robot Blues, leurs différences, est-ce qui vous me dites, hein, n'hésitez pas à lever la main, sinon on continue. Pas de questions pour l'instant, on continue alors. Bon, ce roman, en fait, le Dark Blues, on en a parlé, il met en scène l'Europe et il met en scène une question diablement contemporaine qui est celle du rapport au travail. Je ne sais pas si vous rêvez ou pas de bosser, c'est 16 heures par semaine, c'est ça en fait, hein, 4 fois, voilà, donc hein, 4 fois 4 heures. Bon, en ce qui me concerne, ça m'irait très bien, mais je ne sais pas s'il en est de même pour vous. En tout cas, on voit bien que là, dans ce roman, la question européenne, tu l'as posée par ce biais-là, via les robots, mais dans d'autres romans précédents, comme Le Dormeur s'éveillera-t-il, c'était par l'écologie. Alors que dans Cette chère humanité, c'était plus par la construction d'une sorte de surmarché commun politique. Et donc, est-ce que tu peux en dire deux mots sur ces différentes façons, au travers de voir un seul et même thème, comme l'Europe, dans plusieurs livres?
Ce qui m'a frappé quand j'ai écrit Cette chère humanité, c'était le fait que l'Europe, dont j'ai toujours rêvé depuis la plus tendre jeunesse, surtout parce que j'ai traversé la guerre et que j'ai su ce que étaient les massacres humains, moi qui suis à la fois anarchiste et pacifiste, je dois dire que ça m'a totalement perturbé. Et donc j'ai aspiré toujours à la création de l'Europe, depuis toujours, mais pas à l'Europe, vue par les nazis. Et immédiatement, j'ai conçu Cette chère humanité comme ce que je voyais en train de se construire, c'est-à-dire tout le contraire de ce que je pensais être, c'est-à-dire une fédération nationale, internationale, entre les 7 États qu'il y avait, que j'avais transformé en 13 à l'époque, qui se sont rapidement transformés en 27 et en 28. Enfin, le problème ne change pas par rapport à ça. Ce qui était important, c'était de montrer que finalement, l'Europe qui se construisait n'était pas du tout une Europe culturelle, une Europe de l'échange, une Europe du métissage, mais une Europe du marché. D'ailleurs, le monde que je décrivais s'appelait le Marcom, c'est-à-dire une transfusion, une transposition du marché commun. Alors toute l'histoire repose sur le fait que le marché commun s'est enfermé dans une bulle gigantesque qui est infranchissable. Elle est infranchissable, c'est un mur invisible qu'on ne peut pas traverser. Sauf que pendant que le marché commun s'est refermé sur lui-même, autour de ce que je considère comme l'erreur fondamentale, c'est-à-dire basée uniquement sur la norme, la normalisation de tous les verres, de tous les appareils, de tout ce qui constitue notre quotidien, en plus avec un asservissement de l'être humain à la propreté, à la pollution. Tous les gens sont devenus de genouillères, ont des casques sur la tête. La civilisation est tellement peureuse qu'on ne veut pas que les humains soient malades. C'est une sorte de super assistance de la sécurité sociale. Et donc, j'ai montré que ces normes et cette vigilance par rapport à la peur de la mort, à la peur de la maladie, transformaient les êtres humains qui se refermaient peu à peu dans leurs immeubles fermés et qui vivaient dans des espaces confinés qui s'appellent les cabines de temps ralenti, dans lesquelles ils vivent 7 fois plus lentement, leur permet de ne rien faire. Par ailleurs, donc, dans ces pays extérieurs, que j'appelle les PEVOIS, c'est-à-dire un raccourci des pays en voie de développement, la civilisation a progressé de manière extraordinaire à cause du métissage entre les différentes espèces qui existent sur Terre, différents pays, différentes cultures, et elle va envoyer un personnage qui s'appelle Belkacem Atia, et qui va réussir à pénétrer, donc il va être le témoin de cet état absolument invraisemblable qui s'est constitué. Et c'est ce témoin, donc, qui va, lui, étant un personnage libre, avec une civilisation libre, dans un monde libre, complètement erratique, mais développé sur le plan culturel et humanitaire et humain, va découvrir peu à peu le monde du Markov, dans lequel vivent des personnages très importants. D'une part, le père, qui est un peu le directeur, le conseiller général de la Commission européenne, et son fils, Simon Cessieux, qui lui est plus ou moins libertaire et qui va un peu lutter contre la tyrannie de ce qui est en train de se développer. C'est-à-dire en particulier quelque chose que j'ai conçu il y a très longtemps et qui va bientôt advenir, c'est-à-dire le vote électronique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'est-à-dire ça se passe, quand j'ai écrit le roman, c'est en 1972, j'ai inventé le vote électronique, c'est-à-dire que tous les personnages du dirigeant de l'Europe sont instantanément déchus et élus en permanence, puisque la consultation est en permanence réanimée sur le net qui n'existait pas, et vont donc rendre erratique la direction de l'Europe, puisque les personnages centraux vont être éliminés et revenir en permanence avec des conseillers très bizarres qui vont essayer de torpiller la chose pour que ça soit encore plus rentable et plus lugubre qu'auparavant.
Bon voilà, mais sans forcément raconter l'histoire, l'Europe, là, tu l'as raconté sur l'angle du Markov, c'est-à-dire du marché, et de ce rapetissement généralisé du réel comme des âmes. Est-ce que d'une certaine façon, à chaque fois, tu réinventes finalement l'Europe, en l'occurrence, dans un de ces romans-là. Dans Le Dormeur s'éveillera-t-il, là, on est sur une Europe après un cataclysme, je crois, en fait, hein, une Europe post-cataclysme, post-apocalypse. Et c'est un roman qui, lui, pour le coup, est très marqué par l'écologie.
Oui, c'est un roman, donc, qui, au début, implique le fait que, sous la pression des forces écologistes, des forces terroristes, de toutes les forces anti-gouvernementales, l'Europe éclate, et donc ce qui va donner par la suite cette restauration, et que je pars de principe, parce que finalement c'est un peu une véritable pied de nez que j'ai lancé à l'écologie à l'époque, puisque, bon, je ne le dissimule pas, j'ai toujours été un partisan du nucléaire, je pense que j'ai été, moi, personnellement, un reporter extrêmement vigilant et totalement indépendant. Et j'ai visité, pendant 20 ans, les constructions de toutes les usines nucléaires. J'ai vu avec quel soin ça a été réalisé, comment les agents qui travaillaient étaient en permanence remis en forme, remis en question, et vu que c'était quand même une énergie absolument indispensable pour le développement de la société en ce moment, en pensant que ça n'était pas une solution à long terme, puisque dans cette humanité, j'ai inventé le fait que tous les déchets nucléaires, qui sont quand même le principal problème de l'énergie nucléaire, sont rassemblés dans l'Auvergne, qui est devenue une espèce de temple du nucléaire, du plutonium qui va durer 150 000 ans. Donc j'ai inventé dans ce roman, dans Mœurs avérative, le contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le nucléaire, mais qu'on a inventé les plateformes solaires spatiales. Et on sait bien que les plateformes solaires spatiales, lorsqu'elles transmettent leur énergie sur Terre, la transmettent à travers les micro-ondes. Les micro-ondes, il n'y a rien de plus dangereux, c'est quelque chose d'absolument mortel. Donc, les écologistes qui ont lutté toute leur vie contre cette énergie nucléaire, contre cette énergie solaire, vont redécouvrir la possibilité de l'énergie nucléaire qui, elle, est totalement différente. Cette expérience, je l'ai rencontrée dans un lieu très particulier qui est la vallée de la Meuse. J'ai fait un reportage dans la vallée de la Meuse et j'ai vu ce que le 19e siècle en avait fait. C'est-à-dire que ça a été un endroit industriel d'une force absolument étonnante. À l'époque, on utilisait le charbon de manière délirante. Et toute la vallée était absolument fusillée, noire, les villages foutus en l'air. Et au bout de tout ça, on avait créé une toute petite centrale nucléaire qui s'appelle la centrale de Tiange. Et là, j'ai attiré beaucoup d'ennemis. Et c'est une petite centrale blanche qui dégageait un petit jet de vapeur très propre. Et j'ai pensé quand même qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre. Et à partir de là, donc, que j'ai fait cette inversion de la lutte des écologistes contre le nucléaire en la transformant en une lutte contre le solaire. Au-delà de ça, il y a un personnage très énigmatique qui va durer tout le long du roman, qui s'appelle le Dormeur. C'est un personnage, on ne sait pas exactement d'où il est né, d'où il est sorti. Voici, c'est une jeune femme qui en a accouché, mais elle ne sait pas exactement pour quelle raison. Cet enfant d'une intelligence extraordinaire peut transmettre de temps en temps des idées, mais il dort en permanence, et jusqu'à la fin du roman, d'ailleurs, il ne se réveillera jamais. Par ailleurs, j'ai aussi introduit dans ce roman une nouvelle possibilité d'énergie qui n'est pas exploitée aujourd'hui. Je pense qu'elle est absolument indispensable, c'est l'énergie marine. Parce que j'avais longtemps suivi les travaux de Georges Claude, qui avait inventé plusieurs solutions, dont en particulier la différence entre les températures entre la mer, entre le bas de la mer et le haut de la mer, à partir de laquelle on peut produire de l'énergie d'une manière absolument extraordinaire sans jamais rien polluer. Il y a aussi l'énergie des vagues et l'énergie du courant. À partir de ces trois éléments, on peut construire des centrales marines absolument extraordinaires qui produiront de l'énergie gratuite sans aucun problème pour l'environnement, alors que toutes les autres centrales, quelles que soient les solutions que nous proposons, dès qu'il y a une action, il y a réaction. Là, dans ce domaine-là, il n'y en a pas. Il y en a eu, par exemple, pour la centrale de la Rance, qui a été une bonne idée au départ, mais qui finalement a totalement neutralisé l'estuaire de la Rance, au point qu'on a dû entièrement supprimer la centrale pendant un temps, redraguer la Rance et la réhabiliter, la centrale. Donc les centrales hydroélectriques, les barrages ne sont pas non plus sur la mer, ne sont pas aussi une solution. Mais celle-là, on est plus. Donc j'ai voulu exploiter toutes ces possibilités de l'énergie future à travers ce roman, à travers d'autres épisodes évidemment qui sortent de cette transformation de la société, du fait que tout a été brouillé, que toutes les normes qui a construit ont été balayées et que le monde se reconstruit petit à petit.
Bon, en tout cas, je ne débattrai pas sur le nucléaire, mais en tout cas, il y a une capacité à nous surprendre, en fait, hein, toujours présente chez Philippe Curval. Parmi les nombreuses facettes hein, de ses œuvres, il y en a une aussi qui est assez intéressante et importante, c'est le rapport à l'autre. Bon, hein, le rapport à celui qui est à l'étranger. Alors, il y a deux exemples que j'aimerais envie que tu développes un tout petit peu, en fait, qui sont très différents. Le premier, c'est celui du ressac de l'espace, avec cette civilisation qui est, au sens propre, quasiment surréaliste, qui crée des œuvres absolument incroyables, alors que c'est une sorte de petite amibe, je crois, une sorte de... C'est une race qui est assez mochetingue et qui et qui est une sorte de parasite mental, hein, et qui a besoin d'autres civilisations pour construire ces mondes absolument merveilleux ou infernaux selon l'angle qu'on prend. Et l'autre type d'autre, c'est l'autre près de chez nous, quoi, l'autre ici sur Terre, hein, et avec Aguiloé qui est le sauvage, en fait, hein, l'animal du sauvage, du bon et du mauvais sauvage. Et c'est important peut-être que tu en dises un mot, parce que ce roman, je ne sais pas si vous avez une idée quand même, on parle de plusieurs types de romans. Hein. Le Ressac de l'espace, c'est son deuxième roman qui date de 1962. Cette chère humanité est sortie, je crois, en 1977. Et Le Dormeur, 2 ans plus tard. Bon, juste à temps, c'est le dernier que je vous conseille donc, de lire, qui est sorti l'année dernière. Hein, donc, et là, Aquiloé, c'est un roman qui est un roman qui se donne comme un roman réaliste hein, au départ, et qui est paru tel un roman totalement réaliste, justement, trop, puisqu'en fait, il y avait les deux dimensions au départ dans le roman qui est sorti en 1989, je crois, et qui va ressortir cette fois-ci non expurgé. Et c'est intéressant par rapport à la. On va dire à l'état de l'art du monde littéraire, y compris par rapport à la science-fiction, que de parler de cet exemple-là. Donc, le rapport à l'autre, et en particulier à Aquiloé, c'est intéressant, je vous donne l'anecdote sur ce qu'était ce livre quand il est paru, et ce qu'il va être demain, lorsqu'il va en reparaître.
Oui, donc c'est un roman que j'ai... Pour moi, personnellement, le métissage, c'est vraiment l'avenir de l'humanité, donc c'est vraiment quelque chose de... à partir duquel je tends à travers tous mes romans, pour montrer que c'est véritablement la solution qui va de façon à ce que tous les hommes puissent fusionner, s'entendre et devenir une véritable fédération, non pas européenne, mais interplanétaire. Et donc, dans le premier roman, Le Ressac de l'espace, je suis parti d'une idée qui, à l'époque, n'était pas tellement fréquente, c'est que 99,9% des extraterrestres étaient véritablement des envahisseurs prédateurs et véritablement méchant. Et moi, j'ai voulu justement trouver un extraterrestre qui ne l'était pas. Il avait qu'un inconvénient, c'est le fait que c'était un extraterrestre parasitaire et qu'il était obligé de vivre avec les habitants des planètes qu'il le transportait et avec lesquels il était en osmose. Et donc, il a épuisé la race de la planète sur laquelle il était et il va se trouver dans les environs de la Terre. Et donc, par intérêt, le personnage principal, qui s'appelle le capitaine Dürer, va ramener sur Terre ce Tsank, et va donc, comme il se reproduit par sissiparité, il n'a pas besoin, il n'a pas de sexualité, il va petit à petit envahir la Terre, et donc lui va transformer l'être humain parce qu'il leur propose une véritable vision harmonique de leur pensée, c'est-à-dire qu'il va leur amener la culture, il va leur amener le goût de l'art, le goût de la musique, et tout ce qui est passionnant pour moi, il va leur donner des possibilités. Il va par exemple transformer les espaces en immenses jeux d'échecs où les êtres humains vont pouvoir être des pions humains qui vont pouvoir être autonomes et réagir par rapport à un jeu d'échecs complètement multiracial. Et donc voilà ce que j'ai voulu montrer, qu'on peut avoir un extraterrestre totalement différent de tous ceux qui ont été exposés jusqu'à présent. Sauf qu'évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter cette domination et donc peu à peu, il va y avoir une contestation qui va partir sur Mars, sur Vénus et revenir en force pour libérer la Terre de ces extraterrestres qui eux-mêmes d'ailleurs périclitent peu à peu comme sur les précédentes planètes qu'ils ont explorées. Alors Aquiloé, c'est tout à fait différent, c'est un roman d'apprentissage mais d'une manière totalement différente. Il revient d'un voyage en Guyane. Pour moi, la Guyane, ça a été une des plus grandes expériences. Il faut dire que j'ai, du fait d'être rédacteur en chef et d'être d'un journal extrêmement porté sur la technologie de tous les pays, j'ai voyagé dans une cinquantaine de pays. Et donc, j'ai pu voir au fin fond de Madagascar des problèmes de l'eau, au fin fond de Bangladesh, les problèmes de l'eau à l'envers parce qu'il y en avait trop. J'ai vu comment l'humanité souffrait, comment les êtres humains réagissaient par rapport à cette souffrance, par rapport au climat dans lequel ils vivaient, qui sont souvent des climats intenses et extrêmes, et donc essayer de montrer comment un être humain pouvait, dans des circonstances particulières, évoluer de manière totalement différente. Il se trouve que ce personnage donc, que j'ai inventé, parce que j'ai été à l'époque, comme j'étais journaliste privilégié, j'avais pu voyager dans les endroits légaux totalement interdits aux habituels voyageurs, même touristes. Et donc j'ai pénétré auprès d'une tribu qui s'appelle les Wayana, dans un village qui s'appelle Pidima. Et j'ai inventé à partir de là, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises, le fait que des officiels ou des touristes, on ne sait pas exactement, sont venus dans ce village et que petit à petit tout le village est mort, sauf le père du personnage principal, sa mère et sa deuxième femme. Alors petit à petit son père va mourir, sa mère va devenir folle et sa deuxième femme va accoucher d'un enfant mort-né qu'il va associer à un petit haï, un petit paresseux, un animal extrêmement étrange qui habite la Guyane, les forêts de Guyane, et qui va devenir son ami intense, un personnage extrêmement lent et très émouvant. Donc il va se trouver complètement perdu, mort, à moitié mort, et sa mère, quand même dans un dernier réflexe, va l'entraîner vers le dernier village avant la mort de la civilisation, qui s'appelle Marie Pasula. Et à partir de là, il va être entraîné dans un autre village qui s'appelle Papaïchton, dans lequel il rencontre un gendarme et une institutrice qui s'appelle Clarisse, et qui est extrêmement attentive à ce jeune primitif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout cet itinéraire que je vais vous raconter, c'est que ce personnage reste toujours un personnage attaché à l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il est, il est pétri du souffle de la forêt. Parce que le roman s'appelle aujourd'hui Akiloé ou le souffle de la forêt. Et donc il a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il a des rapports étranges avec son pied droit. Et ce pied droit est une espèce d'interlocuteur privilégié par rapport à ce monde qui l'entoure, ce monde difficile, parce qu'on va lui apprendre les rudiments de la République. Parce que finalement, cette institutrice lui apprend la République. La République française. Donc il va évidemment commencer à changer, à avoir des rapports bizarres avec les gens. Et puis petit à petit, il va, à partir du moment où ce gendarme et sa femme vont repartir à la métropole, est abandonné à nouveau, et il va par un hasard extraordinaire, à la suite de circonstances divers, je ne vous expliquerai pas, arriver chez un... Parce que vous savez qu'en Guyane, pendant très longtemps, du fait que en dehors du bagnard, il n'y avait absolument rien. Donc on l'a apporté aussi bien de Pologne que du Laos, que de tas d'endroits, des gens pour transformer la Guyane en un pays agricole. Or on sait très bien que transformer la Guyane en un pays agricole, c'est pratiquement impossible. Parce que si vous coupez en dehors du fait que les indigènes brûlent la forêt et font pousser des graines, mais une fois, ils la font une fois. Mais une fois que la forêt est arasée, il faut 20 ans avant de faire pousser autre chose. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a amené en permanence des Polonais et des personnages pour essayer de cultiver. Or, il reste un seul Polonais, une cinquantaine qui était amené, qui est un ingénieur absolument extraordinaire, qui va apprendre à Akiloé ce qu'est la physique et lui apprendre le pendule de Foucault. Il va prendre des quantités de choses extraordinaires et à travers l'imaginaire de cet Indien, il va imaginer d'autres choses encore plus extraordinaires. Donc je ne vous raconterai pas la suite du roman puisque théoriquement dans sa première partie, il se termine à cet instant puisque son père, son deuxième père adoptif, meurt et qu'il se retrouve sans rien, donc il se trouve perdu au milieu de la forêt. Et là, Françoise Verny, qui dirigeait à l'époque Flammarion, bien que ça soit Elisabeth Gilles, qui était mon amie chez De Noël et qui avait une idée, lui est proposée, a dit non, alors après c'est de la science-fiction, je ne veux pas de ça. Alors personnellement, je dois dire que j'ai été très faible parce qu'elle m'avait offert une avance absolument considérable, ce qui est très rare qu'il m'ait jamais arrivé. Et par ailleurs, elle m'avait dit bon, on va concourir pour le Goncourt, pour le Renaudot, etc. Mais il faut que tu laisses le roman comme ça. Or, moi, personnellement, ce que je voulais, c'était raconter l'histoire de l'humanité à travers un être primitif et à travers un être imaginaire qui va, jusqu'à la fin du roman, se transformer peu à peu, acquérir des intelligences de plus en plus grandes jusqu'au moment où il va devenir, puisque nous sommes dans le Guyane, un astronome. Donc voilà l'histoire d'Akiloé, et que je voulais qu'il paraisse dans son intégralité, puisque c'est véritablement une espèce en raccourci à travers l'imaginaire d'un Indien de Guyane, une espèce d'histoire de l'humanité, un roman d'apprentissage, et qui prend en compte tout le métissage que peut avoir un être humain par rapport aux différentes possibilités d'une civilisation.
Et le livre sort quand ? La nouvelle version, la vraie version, on sait ou pas ?
En principe, à partir du mois de janvier.
En janvier ? D'accord, et chez ton éditeur actuel. Voilà. La Volte. Donc chez la Volte, voilà, comme juste à temps.
Donc c'est un roman qui en plus, non seulement va apparaître dans une vision complète, mais en même temps complètement retravaillé, puisque j'ai même refait une grande partie de la première partie et complètement transformé la deuxième. Donc c'est un roman qui devient extrêmement structuré, beaucoup plus qu'il aurait pu l'être lorsqu'il était paru dans sa version intégrale.
Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, on peut rebondir sur la science-fiction, le rapport à la France ou autre. Parmi ceux qui ont lu Philippe Turval, est-ce que vous avez des questions à poser ? Je peux me lever pour vous tenir le micro ? Non ? Vous écoutez ? Vous préférez attendre pour lui parler en direct, discrètement, sur le côté, dès qu'on aura terminé ? Non ? Oui ?
Bien.
Vous n'avez pas parlé tous les deux de certains livres, c'est pas pour les décrire tous tout cela, mais il y a une série de livres qui sont extrêmement torrides et où tu abordes énormément la question de la sexualité. Donc, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, c'est vrai que la sexualité en science-fiction a toujours été extrêmement peu apparente. Bon, en dehors des amants étrangers de Farmer, dans lequel il y a des rapports évasifs entre un extraterrestre et un humain, on n'a pas jamais été très loin dans ce domaine. Donc j'ai écrit un premier roman qui pour moi est un des meilleurs romans que j'ai jamais écrit, qui s'appelle L'odeur de la bête, qui est intéressant sur des tas de plans. D'une part, bon, le début est un peu, disons, c'est la seule chose qui est un peu pérenne, c'est le fait que ce sont des Russes qui achètent, des Américains qui achètent à des Russes, ou qui peuvent convaincre, je ne sais plus, une planète qu'ils ont abandonnée parce qu'elle ne rapporte rien. Or, sur cette planète, il y a différents extraterrestres. Des extraterrestres qui ont pris le pouvoir, et puis d'autres extraterrestres qui restent extrêmement vagues, qu'on appelle les naonites, qui sont des êtres, en particulier les femmes, enfin les femelles, sont des êtres extrêmement attirants, bien que n'ayant pas exactement l'apparence d'une femme, mais ils sont absolument bouleversants. En plus, le concept architectural des gens de cette planète est extravagant. Vraiment, le personnage principal qui arrive n'arrive pas à comprendre comment les immeubles peuvent tenir debout, comment les maisons sont construites. C'est vraiment un monde que j'essaie de décrire de manière tout à fait bizarre. Mais ce qui va se produire, qui est très important, c'est que malgré tous les interdits qui pèsent sur ces maonites, le personnage principal va devenir amant de cette naonite et qui va être totalement proscrit par à la fois les terriens, à la fois par les habitants de la planète en question. Donc là, c'est un roman d'amour fou que j'ai écrit et qui est totalement différent de tout ce qui a pu être écrit par ailleurs. Et alors par la suite, je ne sais plus si c'est par la suite ou avant, Marianne Lecomte, qui faisait une collection chez Lattès, m'a dit que puisque tu as écrit ça, tu pourrais aller plus loin. Et donc, j'ai pensé qu'effectivement, un roman véritablement pornographique, qui n'existe pas du tout en science-fiction, pouvait être écrit. Et à ce moment-là, donc, le principe fondamental, c'était le fait qu'il existait un appareil qui permettait à toutes les races de l'univers, quelles qu'elles soient, c'est un peu comme une prise électrique qui va sur toutes les prises de courant du monde. Cette prise permettait de faire l'amour entre toutes les races du monde de l'univers. Et donc, il va se passer qu'un personnage va trouver une détective, que j'ai pris un peu à la manière de Chandler, qui va partir à la recherche de cet instrument qui permet de faire l'amour à travers toutes les races de l'univers. Et donc, évidemment, à la recherche de cet instrument, elle va rencontrer une quantité de personnages avec lesquels elle va faire l'amour d'une manière plus ou moins différente. Donc c'est un roman totalement pornographique, mais un roman pornographique étrange, parce que ça ne se passe pas d'une manière telle que les êtres humains font l'amour entre eux, mais d'une manière très différente. Donc il y a des manières très différentes.
Et donne le titre du roman.
Au-delà du Kamasutra.
Et donne le titre du roman quand même.
Oui, le roman s'appelle Tous vers l'extase. Voilà.
Question. Tous vers l'extase, vous êtes d'accord, en bossant simplement 4 heures par jour pendant 4 jours, donc hein, ça laisse du temps pour aller vers l'extase, quelle qu'elle soit, hein, sexuelle, spirituelle, intellectuelle, hein, donc il y a plusieurs types d'extase, bien évidemment. D'autres questions? Bon, il faut savoir aussi quand même, on n'en a pas parlé, mais que dans ton histoire, tu as travaillé également dans une librairie, je crois, en fait, de science-fiction, qui a été l'une des premières en France, dans les années 50.
Oui, la première, non seulement c'est la première, mais c'est à partir de là que s'est créée la science-fiction française. C'est une histoire très simple que j'ai racontée des centaines de fois. Donc il se trouve que Boris Vian est venu proposer à mon ami Valérie Schmitt un roman qui s'appelle Le Triangle à quatre côtés, qui était paru au Rayon Fantastique. Et elle dirigeait à l'époque une librairie de poésie dans laquelle était Francis Ponge et des tas d'autres poètes. C'était une librairie de poésie. Et elle a dit au mécène qui s'occupait de cette librairie, qui s'appelle Aubier, et qui dirigeait à la fois les éditions Aubier-Montaigne et qui était propriétaire de plusieurs laboratoires pharmaceutiques, voilà, c'est fini cette histoire de poésie, c'est vieux. Faisons une librairie de science-fiction. Et à partir de là, on a créé une exposition avec Raymond Queneau, Boris Vian, quelqu'un qui est complètement oublié, mais qui est un génie méconnu, qui s'appelle Jean Boulet, avec Jacques Sternberg, avec moi-même. Une exposition qui s'appelle Présent du futur, qui a eu lieu en 1953. Et à partir de là, est paru en même temps que l'exposition Fiction et Galaxie. Donc il y a eu trois éléments fondamentaux qui ont fait que du jour au lendemain, alors il y a eu des articles un peu partout, il y a eu déjà un ou deux articles à la fois par Boris Vian et par Pilotin dans des revues littéraires sur ce phénomène qui existait aux États-Unis, que personnellement je ne connaissais pas, et qui tout d'un coup ont pris auprès du public un véritable rôle important, puisque finalement les éditeurs avaient un problème terrible, c'est qu'ils ne vendaient plus du tout de polar. Le polar était mort. Et ils se sont dit, ben, c'est formidable, on a des centaines et des milliers de volumes aux États-Unis qui peuvent servir pour faire des collections. Donc, ils ont acheté à des prix totalement dérisoires des romans absolument somptueux, comme des romans de Sturgeon, de Van Vogt, et des plus grands auteurs américains. Et malheureusement, pour nous, ce qui a été terrible, c'est que pour pouvoir publier, alors que les romans étrangers étaient pour rien du tout, les nôtres coûtaient au moins le prix qu'était la construction d'un roman, c'est-à-dire au moins 3, 4, 5, 6 mois de quoi vivre à l'époque où je pensais encore pouvoir vivre de ce que j'écrivais. Il se trouve que par un hasard extraordinaire, j'ai fait le calcul jusqu'à il y a 5 ans, parce que maintenant ce n'est plus le cas, de 1953 jusqu'à 2015, j'ai vécu avec le SMIC grâce à ce que j'ai écrit. Bon, c'est vrai que j'ai écrit, j'ai eu d'autres métiers, mais enfin, ce qui prouve qu'on peut quand même vivre de sa littérature, enfin, il faut être modeste.
Voilà, donc on a fini par Boris Vian, qui d'ailleurs avait traduit Le Monde des Non-Nas de Van Vogt, hein, ce que les gens savent pas, qui a fait beaucoup de traductions hein, de romans de science-fiction. Donc voilà, donc, et au fond, finalement, on pourrait poser la question de savoir si la place de la science-fiction n'est pas justement aux côtés de Raymond Queneau, de Boris Vian, comme des polars, et est-ce que tout ça, d'ailleurs Maurice Dantec ou Houellebecq ne sont pas classés science-fiction, et pourtant, voilà, est-ce que finalement on ne devrait pas faire une littérature de l'imaginaire plutôt que de créer une case ou de mettre dans une case des livres?
Bah oui, personnellement, c'est ce que je pensais. Il s'est trouvé que j'ai été emporté par le tourbillon de la science-fiction, mais enfin, depuis très longtemps, je pensais créer avec certains amis, y compris Sternberg, Butor par la suite, etc., une littérature de spéculation qui aurait dû s'appeler en réalité le futurisme. Malheureusement, le mot était déjà pris. Mais puisque je ne pouvais pas participer au surréalisme, qui était pour moi quelque chose d'un peu dépassé, puisque Breton refusait à écrire Maudisset, que je pouvais ressembler à un roman, et que le nouveau roman en train de naître, n'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, je pensais véritablement me percer un trou à travers ces deux possibilités. Malheureusement, j'ai été emporté par le vent de la science-fiction. Je n'en suis pas fondamentalement mécontent, mais ça m'a permis d'écrire aussi des livres qui n'en sont pas.
Voilà, vraiment. Ben, merci à vous. Voilà, on peut...